Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci, content de vous retrouver, bienvenue sur Radio Galaxy 98.5 FM, la radio du sud de Toulousain, et nous allons parler tourisme, nous allons parler agriculture un petit peu en même temps, parce que je vais discuter avec monsieur Francis Barraud que la plupart d'entre vous connaissent et s'en souviennent pour avoir été une des voix magiques de Radio Galaxy. Francis, bonjour.
Oui, merci. Bonjour Bruno, bonjour Radio Galaxy.
Francis Barraud qui vient de sortir aux éditions Sud-Ouest un livre magnifique de presque 200 pages, 190 pages pour être précis, sur les plus beaux arbres des Pyrénées, 250 histoires, légendes et récits d'arbres magnifiques ou d'arbres remarquables qui se situent dans tout le sud-ouest de la France, parce que tu couvres pratiquement tout le sud-ouest là-dedans.
Enfin, ouais, pas vraiment le sud-ouest, mais plus vraiment la partie Pyrénées, on va dire. Parce que ma spécialité, c'est vraiment au niveau des Pyrénées. Donc effectivement, dans ce livre, j'ai regroupé 250 arbres, mais des vieux arbres en principe, à histoire, des vieux arbres qui commencent à 150 ans jusqu'à 1800 ans le plus vieux. Et tous, en fait, ils ont soit une histoire, soit une légende, soit un récit. C'est une forme de, on va dire, c'est de la tradition que je transmets, en fait. Et quand je dis sur toutes les Pyrénées, c'est vraiment, voilà, les départements accolés aux Pyrénées, c'est-à-dire côté français. Si on prend de la Méditerranée, ça va commencer au PO, aux Pyrénées orientales. Après, on a l'Ariège, on a la Haute-Garonne. En suivant les Hautes-Pyrénées, on poursuit avec le Béarn, le Pays Basque. Donc, on arrive à l'océan. Ça, c'est le côté français. Mais il y a aussi le côté espagnol où on a la Catalogne, le Haut-Aragon et la Navarre. Voilà, pour simplifier. C'est vraiment toute la chaîne des Pyrénées.
Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ce livre sur les arbres ?
Plein de raisons déjà. Par exemple, je connaissais des vieux arbres. Quand j'allais les voir, voilà, je les retrouvais coupés. Coupés tout simplement parce que soit des gens qui gênaient, ou alors par peur qu'ils tombent, ou marre aussi un petit peu qu'on prenne l'arbre juste que pour une planche. Alors que chaque fois, moi, je me dis, voilà, l'arbre, quand je l'ai devant moi, mon arrière-arrière-arrière-grand-père n'était pas né ou naissait que l'arbre, il existait déjà. Et justement, je me dis aussi, dans mes petits-enfants ou arrière-arrière-petits-enfants, plusieurs générations après, quand ils vont décéder ou quand ils vont mourir, l'arbre, il sera encore là, si on ne touche pas. Voilà. Et nous, de quel droit on peut se permettre d'arriver, pour une peur ou autre, décider de couper cet arbre, voilà. C'est un peu tout ça, voilà. C'est sensibiliser les gens à l'arbre qui est très similaire à l'homme, je dirais, en fait. Moi, j'ai tendance à l'appeler le peuple debout, parce que c'est vrai qu'il ne marche pas, mais il a beaucoup de ressemblances avec l'homme, voilà. Un peu tout ça, un peu. Et en même temps, transmettre une mémoire autour de l'arbre, parce que l'arbre, il a toujours compté pour nous, en fait, pour le peuple pyrénéen. On a plein de rituels. L'arbre, il a toujours été présent, en fait.
Et ça a été facile de trouver les légendes associées à chaque arbre, ou comment t'as fait ?
Oh, ben c'est un bouquin que ça fait plusieurs années où j'y travaille dessus. Donc, soit en lisant sur des vieux bouquins qui, à un moment donné, vont parler d'un arbre. À partir de là, j'essaye de voir s'il existe toujours. Soit ça peut être des témoignages d'anciens, soit ça peut être des associations qui aussi, petit à petit, sont sensibilisées par les arbres et ont essayé de rechercher des vieux arbres. Certains, ils n'ont pas d'histoire, ou elles se sont perdues, des histoires, et d'autres, il y a des histoires. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était de récupérer ceux où il y avait des histoires pour transmettre. Et voilà, et après, aller sur le terrain, voir s'ils sont toujours, les photographier, etc., en fait, voilà.
Tous ces arbres sont des arbres qu'on répertorie dans le livre avec une photo, avec à chaque fois une histoire donc sur cet arbre magnifique. Par exemple, je suis ici à Saint-Lary, le frêne aux palombes au col du Piégeot. Arbre estimé de 225 ans avec 2 mètres de circonférence. Tous ces arbres, ils sont visibles pour le visiteur, le touriste ?
Oui. Dans la présentation du livre, ce que j'ai essayé de faire, effectivement, sur les 250 textes, il n'y a pas des photos de tous les arbres. C'est un choix qui a été fait au niveau de la mise en page, hein, pour qu'on puisse mettre 250 textes avec des photos sur un bouquin de 180 pages à peu près. On a fait le choix de ne pas mettre des photos de tous les arbres, mais à chaque arbre, en principe, ce que je fais, donc il y a le nom de la commune, je mets d'entrée l'estimation de l'âge de l'arbre avec sa circonférence, et après, je mets le détail en fait pour accéder jusqu'à cet arbre, en fait. Et à partir de là, dessous, il y a le texte ouais, qui correspond à la légende, au récit, à l'histoire de l'arbre, en fait.
L'âge des arbres, comment il est estimé à chaque fois?
Alors, soit on connaît l'histoire de l'arbre, on sait quand il a été planté, donc il y en a certains, on sait précisément le jour même où il a été planté, et d'autres, après, on fait, en fait, à mesure à la circonférence, voilà, il y a des calculs qui permettent de donner approximativement l'âge d'un arbre. Alors, quand on dit approximativement, ça peut être à 10 ans près. Quand on parle d'un arbre de 250 ans, si on l'a fait par calcul, effectivement, il peut avoir 230 comme 270 ans. Mmh. Mais bon, c'est une moyenne, on va dire.
Je vais donner un exemple. Donc, je suis avec Francis Barraud. On parle de son livre « Les plus beaux arbres des Pyrénées, 250 histoires, légendes et récits », édition Sud-Ouest, prix 23 euros. Donc, c'est un excellent cadeau pour tous les amoureux des arbres et de la nature à faire pour Noël. Je le dis comme
voilà,
ça. Je le dis comme
oui,
ça en passant.
Hein.
Je vais lire un extrait, par exemple, sur la Bastide de Céroux, donc en plein Ariège, à côté de Pamiers. Le oui. chêne le plus vieux de l'Ariège, âge estimé 700 ans, 6 mètres de circonférence. Depuis la Bastide de Céroux, prendre la D501 en direction du hameau de Suzanne, après oui. avoir dépassé le lac à gauche et juste après avoir traversé le ruisseau d'Aujol, prendre le chemin de gauche conduisant au hameau d'Antouzan. Le chêne domine les deux dernières maisons du haut et se rejoint sur un chemin peu visible entre les deux pâtisses. Donc le chêne le plus vieux de l'Ariège, ici, ce chêne déploie son ombre sur la maison ancien château d'Anduzan, né avant la guerre de Cent Ans. Il est considéré comme le plus vieux chêne de l'Ariège, avec ses 30 mètres de haut et ses 40 mètres d'envergure. Il suscite respect et émotion, etc., etc. Donc, à chaque fois, on a un descriptif, une photo dans le cas de cet arbre précis, et puis plusieurs indications pour s'y rendre, c'est ça?
Oui, voilà. Chaque fois, en principe, j'essaye de faire en sorte que les personnes qui veulent aller le voir, eh bien, le trouvent. Parce que justement, c'est vrai que ça a été aussi un des labeurs, on va dire, d'arriver des fois à retrouver un arbre. Parce que soit les indications elles étaient trop légères, soit c'est pas simple, parce que quand il est perdu en pleine nature, d'arriver à le retrouver, des fois c'est compliqué. Après, il y en a d'autres, c'est très facile, parce que justement, il y en a qui sont plantés au milieu d'un village, par exemple, parce que souvent, sur les places du village, il y avait des arbres qui servaient pour des choses bien précises, hein, qui ont été plantés pour, admettons, en tant qu'arbre de liberté, pour fêter, admettons, la fin de la Révolution, d'autres pour fêter une autre guerre, etc. Voilà, chaque fois, il y a certains, c'est facile à trouver, mais d'autres, c'est compliqué, ouais. Donc, j'ai essayé, dans les indications, de faire quelque chose de cohérent pour que les personnes arrivent à les retrouver, ouais.
Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même toutes sortes d'arbres. On parle du cyprès, du platane, du chêne, du châtaignier, des séquoias gigantesques aussi qu'on a trouvé, par exemple. Pourtant, c'est pas un arbre de nos régions, ça, le séquoia.
Ouais, mais justement, il y a pas mal d'arbres, en fait, qui ont pu être transplantés en France, souvent quand il y avait des grosses demeures, ou dans des jardins, pour les jardins, pour l'ornement des jardins. Les demeures existent encore ou pas, mais les jardins ont pu être repris par les municipalités ou autres, et du coup, ces arbres, ils sont entretenus, ils y sont, et c'est vrai qu'on peut trouver, je sais pas, même en pleine ville comme à Pau, je pense à Pau, il y a plusieurs jardins où il y a des vieux arbres. Ça peut être ça, ça peut être à Luchon, ça peut être un peu partout, ouais, ça dépend en fait. Et au niveau des histoires, c'est vrai que c'est hyper varié aussi, ça peut être autant, je vais parler d'un chêne où par exemple les anciens m'ont dit que ce chêne à l'époque, les derniers loups, quand il est tué, il est pendé en fait à ce fameux chêne. Voilà, ça peut être des histoires en relation aussi avec des arbres qui sont témoins d'un lieu qui est à côté, ou par exemple période de guerre avec la Gestapo, qu'ils arrêtaient, tuaient des gens, etc. Ça peut être voilà, un arbre de liberté dont je parlais, ça peut être des rituels qu'il y avait sur un arbre. Je varie un petit peu toutes les sources, en fait.
Dans ce livre-là, toi, est-ce qu'il y a un arbre particulièrement qui t'a touché plus que les autres?
Il y en a, mais en fait, peut-être... en fait, il y en a beaucoup qui m'ont touché, mais il y aurait par exemple du côté de Figueras, voilà, il y a un vieux chêne. En fait, ce vieux chêne pousse au-dessus d'une source et ses racines sont en train vraiment d'enrober la source. Et ce vieux chêne, en fait, quand on est au pied, il est magnifique. Et surtout, quand on repense qu'à l'époque, Salvador Dali, donc il connaît tout le monde, le peintre, venait se poser sous ce chêne, boire à la source, etc. Voilà, ça peut être des histoires comme ça. Et c'est vrai qu'en tonnier, il peut y avoir une émotion par rapport à ça, ouais, tout à fait. Ouais.
Ce qui est intéressant aussi dans l'ouvrage, c'est que ça permet d'avoir des lieux presque de pèlerinage, où on peut aller à côté de cet arbre-là et aller méditer un petit peu tranquillement dans la nature.
L'arbre, il sert à plein de choses, justement. Rien que déjà d'aller en voir un ou en voir plusieurs, parce qu'on peut se faire des circuits, se dire, tiens, là, je suis en Ariège, je vais, voyons qu'est-ce qu'il y a. Hop, tu fais un circuit de plusieurs arbres. Et c'est vrai que quand tu arrives devant ces grands-pères, en fait, ces monstres-là, c'est différent, en fait. T'es là, c'est vrai que tu peux méditer, mais t'es posé devant, tu les regardes, tu fais, ah ouais, quand même. Parce qu'il y en a, enfin, on se rend pas bien compte, mais quand on est occupé et en fonction des saisons, comme l'automne aussi, c'est grandiose. Ces arbres, c'est vrai qu'on a envie de les toucher, on a envie de s'y poser, on a envie de dormir, on a envie de monter dessus. Enfin, ils sont magnifiques, ouais. C'est des bonnes balades à la journée, en fait. Certains, on y arrive en voiture, d'autres, il faut marcher un peu, ça dépend. Mais c'est vrai que quand on fait une journée à la rencontre de ces arbres, c'est vrai que le soir qu'on rentre, on est autrement, hein, ça c'est sûr.
Ça s'appelle Les plus beaux arbres des Pyrénées, 250 histoires, légendes, récits aux éditions Sud-Ouest de Francis Barrault, 23 €. Francis, à la fin du livre, il y a aussi quelque chose qui fait en mémoire des arbres disparus.
C'est la conclusion, on va dire, parce qu'il y a une intro, on parlera aussi d'intro après, mais il y a la conclusion. Et c'est vrai que la conclusion, elle est un peu autour de tout ça, des arbres qui ont disparu, parce qu'il y en a certains. C'est, par exemple, je pense à un village où il y avait, à côté de l'église, en fait, il y avait un ormeau. Cet ormeau, il avait un vieux, donc il avait un trou dans le tronc. Et ce qui se passait à l'époque en rituel, c'est-à-dire quand les gens ils allaient se faire baptiser à l'église, à la sortie de l'église, ils prenaient le gamin et ils allaient lui passer la tête dans l'ormeau, en fait, dans le trou, pour le désensorceler, parce qu'ils estimaient que c'était ce rituel, il était peut-être bien avant l'arrivée du christianisme dans les Pyrénées, où les gens, pour désensorceler ou autre, ou au cas où ça arrive, hop, ils passaient la tête dans l'ormeau qui avait ce pouvoir, en fait. Ça, c'est intéressant, mais arrivé sur place, l'ormeau, il n'existe plus. Il a été coupé, peut-être parce qu'il est mort, peut-être, je sais pas. Il y a des arbres comme ça ou d'autres, même je vois sur Roche, dans la Legère, c'est un peu différent, mais justement, il y avait un vieil arbre énorme, un vieux chêne qui devait avoir 600 ou 700 ans, en haut d'une colline, donc il n'y a rien. Mais comme en contrebas, ils ont construit une grosse zone commerciale, au cas où, je sais pas quoi, qu'ils viennent, et bien ils sont allés couper cet arbre pour rien. Et en plus, ils ont appelé la zone commerciale la zone du grand chêne. Bon, voilà, pour dire qu'à un moment donné, il y a des incohérences et ça fait mal, en fait. Donc, c'est pour ça que, voilà, il y a toute une conclusion pour essayer de prendre conscience de ça et de respecter les arbres, pas les couper pour un rien, en fait. Voilà.
On retrouve bien Francis Barrault, un amoureux des arbres, un amoureux de la nature. C'est pas pour rien qu'il écrit des livres sur les Pyrénées et sur les arbres. Francis Barrault, Les plus beaux arbres des Pyrénées, 250 histoires, légendes de récits, 190 pages, 23 €, aux éditions Sud-Ouest. Je le répète, un magnifique cadeau pour ceux qui aiment les arbres pour Noël. Francis, merci beaucoup.
Est-ce que juste je peux rajouter un petit truc sur l'intro, parce que je pense qu'elle est importante, une intro qui parle un petit peu du rituel, mais aussi je fais toute une grosse page sur les arbres voraces, parce qu'on en retrouve, c'est-à-dire des arbres où, par exemple, une pancarte ou un banc a été accolé à l'arbre, et lui, avec le temps, en fait, il a mangé tout ça, c'est-à-dire l'écorce a pris le dessus et a mangé la pancarte ou le banc, etc. Voilà, ça, c'est des choses aussi qu'on retrouve dans le livre. Voilà, je voulais le préciser parce que c'est intéressant, justement.
Livre très intéressant, exactement. Merci, Francis.
Merci, Bruno. Merci, Radio Galaxie. Au revoir.
Radio Galaxie, c'est la radio que j'écoute.